Ce fut une réelle joie pour tous lorsque la Clorinda, mise en appareillage, son ancre levée, commença à prendre le vent sous sa grande voile, son tape-cul, sa trinquette, son foc et son flèche. Elle s'inclina gracieusement à la brise sans que son pont blanc en sable du Canada fût mouillé d'un seul embrun des petites lames que fendent une étrave, coupée perpendiculairement à la ligne des eaux. La distance qui sépare ces deux petites hébrides, Iona et Staffa, est très courte. Avec un vent portant 20 à 25 minutes, eût suffi à la franchir pour un yacht qui, sans être trop forcé, enlevait facilement ses 8000 à l'heure. Mais en ce moment, il avait le vent debout, une légère brise tout au plus. En outre, la marée descendait et c'était contre un jusant assez prononcé qu'il lui fallait courir un certain nombre de bords avant d'arriver à la hauteur de Staffa. D'ailleurs, peu importait à Miss Campbell. La Clorinda partie, c'était le principal. Une heure plus tard, Iona s'effaçait dans les brumes matinales et avec elle, l'image détestée de ce trouble fête dont Helena voulait oublier jusqu'au nom. Et elle le dit franchement à ses oncles. « Est-ce que je n'ai pas raison, Papa Sam ?»«
Tout à fait raison, ma chère Helena.
Est-ce que Maman Sib ne m'approuve pas ?»«
Absolument !»
« Allons, ajouta-t-elle en les embrassant, convenons que des oncles qui voulaient me donner un pareil mari n'avaient vraiment pas eu une fameuse idée. » Et tous deux en convinrent. En somme, ce fut une navigation charmante qui n'eut que le défaut d'être trop courte et qui donc empêchait de la prolonger, de laisser le yacht courir ainsi au-devant du rayon vert, d'aller le chercher en plein Atlantique. Mais non. Il était convenu qu'on irait à Staffa et John Holdeck prit ses dispositions pour atteindre, avec le commencement du flot, cet îlot célèbre entre toutes les Hébrides. Vers 8 heures, le premier déjeuner composé de thé, de beurre et de sandwich fut servi dans la salle à manger de la Clorinda. Les convives en belle humeur fêtèrent gaiement la table du bord sans regret pour la table de l'auberge d'Iona.
Les agras.
Lorsque Miss Campbell fut remontée sur le pont, le yacht avait viré de bord et changé ses amures. Il revenait alors vers le superbe phare construit sur le roc de Cherivor, qui élève à 150 pieds au-dessus du niveau de la mer son feu de premier ordre. La brise avait fraîchi. La Clorinda luttait alors contre le jusant sous ses grandes voiles blanches, mais gagnait peu vers Staffa. Et pourtant, elle coupait la plume pour désigner à la manière écossaise la vitesse de sa marche. Miss Campbell était à demi étendue à l'arrière, sur un de ces épais coussins de grosse toile qui sont en usage à bord des bateaux de plaisance d'origine britannique. Elle s'enivrait de cette rapidité que ne troublaient ni les chaos d'une route, ni les trépidations d'un highway, rapidité de patineur emporté à la surface d'un lac glacé. Rien de plus gracieux à voir, sur ces eaux à peine écumantes, que cette élégante Clorinda, légèrement inclinée, montant, et s'abaissant à la lame. Parfois, elle semblait planer, dans l'air, comme un immense oiseau que soulèvent ses puissantes ailes. Cette mer, couverte par les grandes Hébrides du nord et du sud, abritée d'une côte à l'est, c'était comme un bassin intérieur dont la brise n'avait pu encore troubler les eaux. Le yacht courait obliquement vers l'île de Staffa, gros rocher isolé au large de l'île de Mull, qui ne s'élève pas à plus de 100 pieds au-dessus des hautes mers. On pouvait croire que c'était lui qui se déplaçait, montrant tantôt ses falaises basaltiques de l'ouest, tantôt l'âpre amoncellement des rocs de sa côte orientale. Par suite d'une illusion d'optique, il semblait pivoter sur sa base aux caprices des angles sous lesquels la Clorinda l'ouvrait ou le fermait successivement. Cependant, en dépit du jusant et de la brise, le yacht gagnait quelque peu. Lorsqu'il piquait vers l'ouest, en dehors des extrêmes pointes de Mull, la mer le secouait plus vivement, mais il se tenait gaillardement contre les premières lames du large. Puis, à la bordée suivante, il retrouvait des eaux tranquilles qui le balançaient comme un berceau de baby. Vers 11 heures, la Clorinda s'était assez élevée au nord pour n'avoir plus qu'à laisser porter vers Staffa. Les écoutes furent mollies, la voile de flèche descendit de la tête du mât, et le capitaine prit ses dispositions pour le mouillage. Il n'y a pas de port à Staffa, mais par tous les vents, il est facile de se glisser le long des falaises de l'Est, au milieu des roches capricieusement égrenées par quelques convulsions des périodes géologiques.
Toutefois, avec grand mauvais temps, l'endroit ne serait pas tenable pour une embarcation d'un certain tonnage.
La Clorinda rangea donc d'assez près ce semis de basalte noir. Elle évolua adroitement, laissant d'un côté la roque de Bouchailly, dont la mer, très basse en ce moment, laissait émerger les fûts prismatiques groupés en faisceaux, et de l'autre côté cette chaussée qui borde le littoral à gauche. Là est le meilleur mouillage de l'îlot. Là, l'endroit où les embarcations qui ont amené les touristes viennent les reprendre après leur promenade sur les hauteurs de Staffa. La Clorinda pénétra dans une petite anse presque à l'entrée de la grotte de Clamshell. Le pic s'inclina sous ses drisses larguées, la trinquette fut amenée, l'ancre tomba au poste de mouillage. Un instant après, Miss Campbell et ses compagnons débarquaient sur les premières marches de basalte à gauche de la grotte. Un escalier de bois muni de garde-fous était là qui montait à la première assise jusqu'au dos arrondi de l'île. Tous le prirent et atteignirent le plateau supérieur. Ils étaient enfin à Staffa, aussi en dehors du monde habité que si quelques tempêtes les eût jetés sur le plus désert des îlots du Pacifique.